du souci à la joie. Ça intéresse tout le monde. On a tous des soucis, beaucoup plus de soucis que de joie. Est-ce vrai ou faux? On a des raisons de pleurer plus que de rire. Mais Jésus nous rejoint dans cette vallée des larmes et il nous donne un message parfois un peu provocateur, un peu à côté de ce qu'on aurait pensé entendre. Mais il faut écouter bien ce que Jésus veut dire, parce qu'il est sérieux avec nous. Il ne nous trompe pas. J'ai choisi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, on connaît bien ce texte, dans l'Église, hors de l'Église, partout, Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, 25, je fais la lecture et nous méditons courtement en ce cœur de l'été. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, c'est-à-dire 50 centimètres, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et c'est devenu un proverbe qu'on entend souvent, à chaque jour suffit sa peine. Vous ne l'avez jamais entendu ? J'ai trouvé au moins une cinquantaine de paroles de la Bible qui sont devenues des proverbes, vieux comme Mathusalem, etc., etc. Tout ça, c'est dans la Bible. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on se pose la question. Mais quand même, Dieu agit-il vraiment dans le monde? Quand on voit ce qu'on voit. Le psaume numéro 14 dit, ou 10 nous dit, « Les insensés disent, Dieu ne fait rien, Dieu ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Et ça, c'est rentré dans les consciences. Que fait Dieu? Agit-il? Parce que l'environnement se dégrade, mes amis. Parce qu'on se demande ce que demain nous pourrons manger, où travaillerons-nous demain, que deviendront nos enfants? Est-ce que l'homme se perd dans un chaos épouvantable, dans un trou noir, comme dans l'espace? La Bible dit que Dieu garde l'homme. Il sait quand il se lève, quand il s'assied, quand il marche, quand il dort. Dieu tient l'être humain à chaque pas. Il y a ce passage du psaume 147, Dieu donne de la nourriture au petit du corbeau quand il crie. Dieu donne de la nourriture au petit du corbeau. Et cette belle parole du prophète Jérémie, Dieu lui dit, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant, je te connaissais. » Dieu connaît l'homme. Il connaît l'homme depuis toujours. Il connaît l'homme pour toujours. Il nous avait vus avant que nous naissions. Donc, il connaît nos soucis, nos inquiétudes, notre vie difficile, notre combat. Mais le mal est là, partout, bruyant, tapageur. Et nous, on lui fait de la publicité à la télévision. On fait de la publicité sur le mal. La Bible compare le mal à un dragon rouge. Livre de l'Apocalypse, un dragon rouge. C'est pas un dragon rouge, c'est une comparaison. Parce que le mal existe et Jésus, dans le désert, a été confronté avec le diable qui lui a dit « si tu es, tu le dis, mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, autrement dit, suicide-toi du haut du temple. » Le mal existe dans toutes ses formes de destruction. Nous lisons cela tous les jours dans le journal. Mais le bien existe. Nous voyons des traces de Dieu sur la terre, des petits miracles dans nos vies. Je vois une femme comme Anne dans le Nouveau Testament, 84 ans. Elle passe ses jours, elle passe ses nuits à prier dans le temple. Cette femme est comme un signe que Dieu vient, que Dieu est à la porte. Cette femme a entendu quelque chose de Dieu. Il y a des signes de Dieu. Que deviendrons-nous? Dieu veut faire naître le bien à partir de tout. Même à partir de ce qui est difficile aujourd'hui, Dieu veut transformer le mal en bien. Dans la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources. Psaume 84, plein de joie, transforme la vallée des larmes. Mais Dieu nous appelle à collaborer. Quand on a vu dimanche dernier Moïse qui priait et quand il levait les mains, le bien était triomphant. Et quand Moïse baissait les mains, le mal était triomphant. Nous y participons au bien, au mal, tous. Mais nous avons peur de l'avenir. Demain, un volcan peut exploser pendant 1 an, 10 ans, et la terre est couverte d'une couche de nuages qui réduirait tout à zéro, à la mort. Que deviendrons-nous? Que mangerons-nous? Il y a de l'inquiétude à cause du climat qui se dégrade, qui change, à cause de la violence des enfants, des jeunes. Il y a de l'inquiétude à cause de la démographie. Pourrons-nous nourrir 10 milliards d'êtres humains sur une terre qui se rétrécit? La mer grande augmente son territoire. Que ferons-nous demain dans le mystère du mal qui grandit? On perfectionne de plus en plus les formes d'attentats. Une gamine de 10 ans qui se fait exploser sur un marché, dans un magasin. Ça dépasse ce que nous avons déjà connu. L'égoïsme, la violence. Que ferons-nous demain? Que mangerons-nous demain? Dieu tient tout dans sa main. Il use de patience. Il ne veut pas que aucun périsse, ni vous ni les autres, ni les bons ni les méchants. Et quand le monde va mal, il est sur son trône. Il est plus fort que tout. Il tient tout dans ses mains. Et je crois que Dieu veut nous donner à chaque difficulté que nous traversons sur la terre, dans nos maisons, nos familles, la force de résistance dont nous avons besoin. À chaque difficulté, une force de résistance. Je l'ai dit ce matin, Dieu ne nous donne pas tout d'avance. Il ne nous donne pas du pain pour 3 ans d'avance. Qu'en ferions-nous ? Il nous donne du pain quotidien. Il nous donne une résistance jour après jour. Pour que nous ne comptions pas sur nous, mais que nous comptions sur Dieu à chaque pas, à chaque difficulté, Seigneur, tiens-moi. À chaque inconnu, Seigneur, tu es là. On dépend de lui. On reste avec lui. Alors, puisque nous avons sa force chaque jour, puisque nous avons son pain chaque jour, vous ne trouvez pas que toutes les difficultés de l'avenir pourraient être surmontées et qu'il ne faudrait rien craindre, puisque Dieu est tellement avec nous. Vous vous rappelez les apôtres dans la barque, dans la tempête? Ils ont peur. Ils crient, nous allons mourir. Et toi, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas. Nous, on s'inquiète, et toi, tu n'es pas inquiet. Nous allons mourir. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Voulant dire, vous ne mourrez pas noyés. Vous n'avez pas encore commencé votre ministère d'apôtre. Si vous devez mourir un jour, ce ne sera pas par une noyade aujourd'hui dans la barque avec moi. Le Christ ne va pas perdre ses 12 apôtres d'un coup dans une barque la nuit. Pourquoi avez-vous peur? Puisque je suis avec vous, je vous le dis à vous. Pourquoi avons-nous peur? Puisqu'il est avec nous. Je crois que Dieu peut venir à bout de toutes nos peurs, de toutes nos tempêtes, de toutes nos erreurs, de nos mauvais choix, de nos mauvaises actions et même de nos bonnes actions. Ça vous surprend? Parce que parfois, les bonnes actions nous rassurent à tort. Moi, je n'ai pas fait de mal, le bon Dieu me prendra, il n'y a pas de problème. Ça nous rassure, nos bonnes actions. Et Dieu veut nous dire, non, tu n'entreras pas dans ma maison parce que tu es grand, parce que tu parles bien, parce que tu as donné une pièce à un vagabond hier, tu rentreras dans le ciel parce que c'est moi qui te prendrai. Nos bonnes actions nous rassurent faussement. Mais les gens m'ont dit, mais pasteur, comment peut-on croire? Je suis plongé, m'a-t-on dit, dans un abîme de perplexité, de doute, et je n'oserais pas répéter les paroles de foi que vous dites à l'église du Tabor tous les dimanches. Je n'oserais pas. Comment pouvez-vous parler de l'amour de Dieu? Voilà ce qu'on m'a dit. Comment pouvez-vous parler de la providence après la tragédie de Hiroshima, d'Auschwitz? Pourquoi votre Dieu si puissant n'arrête-t-il pas les guerres, les maladies, la mort inacceptable, impensable de l'enfant, la mort de l'enfant? Votre Dieu est-il inhumain? Est-il impuissant? Est-il indifférent? Je n'ai pas de réponse. Bien sûr, Dieu, pour moi, n'est pas indifférent, n'est pas inhumain. Dieu s'est fait homme pour porter la souffrance. Je n'ai pas de réponse facile. Je n'ai que le témoignage de la parole de Dieu dans mon cœur, témoignage de foi je sais que Dieu nous aime et que toutes choses iront pour notre bien un jour. Et je sais que sur la terre, nous voyons le côté noir des nuages. Nous ne voyons pas le côté lumineux. Et sur le côté lumineux des nuages, je pourrais lire « Dieu ne nous abandonne pas, Dieu agit d'une manière mystérieuse, mais réelle. » Nos lignes sont courbes, mais Dieu écrit droit. On ne voit pas, mais une main invisible nous tient. Seulement, Dieu ne s'impose pas à nous comme un tyran. Il ne nous donne pas de preuves. Il nous laisse des traces. C'est différent. Pour savoir s'il y a la vie sur Mars, la planète Mars, il suffirait d'une petite trace de vie, toute petite, 1 centimètre par 1 centimètre. Une petite fleur, tenez, une petite fleur. Si je voyais une petite fleur sur Mars, je dirais, voilà, une trace qu'il y a la vie sur Mars. Dieu nous laisse des traces dans notre vie. Quand on lui ouvre la porte et la fenêtre pour écouter sa voix face à l'avenir. Mais quand même, reconnaissez que nous sommes à la merci d'un avenir imprévisible. Il peut y avoir un tremblement de terre à Rennes, un accident, une maladie, un cancer, une dépression nerveuse. Un avenir imprévisible. Mais il y a quand même un avenir prévisible. Il y a un texte de la Bible qui dit « Quand les mains sont paresseuses », ça veut dire quand les mains ne font rien, la charpente s'affaisse. Ça veut dire si tu ne répares pas ta charpente, si tu dis « ça s'arrangera tout seul », la charpente va s'affaisser. Donc il y a un avenir prévisible, ça va s'affaisser. Si tu ne tiens pas ta vie, elle va s'affaisser. Si tu ne retiens pas ton cœur, tes sentiments, si tu ne mets pas des barrières dans ta vie, tu vas t'affaisser. Il y a un avenir prévisible. On récolte ce qu'on a semé. Mais c'est lancinant en nous. Voyez-vous, je vais tout doucement, hein, parce que c'est lancinant en nous. L'incertitude nous donne une inquiétude insistante. Nous sommes des puits d'inquiétude, disait Charles Péguy, des puits d'inquiétude. Et Jésus nous le rappelle. Vous dites, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? En fait, quand nous disons cela, nous voulons supprimer l'incertitude de l'avenir. On veut maîtriser l'avenir. On veut connaître l'avenir. On veut avoir l'avenir en main. On veut tout savoir. Je vais aller un peu plus loin, pardonnez-moi. On veut être comme Dieu. La vieille parole de nos parents dans le paradis terrestre, vous serez comme des dieux. On veut maîtriser l'avenir. Mais si on pouvait le maîtriser, est-ce que nous ferions les bons choix? Si nous recommencions notre vie, est-ce que nous ferions de bons choix, forcément? Mais nous sommes piégés. Si même nous pouvions prévoir la nourriture de demain, je pense que vous avez prévu pour manger demain. Même si vous aviez de quoi manger pendant un mois d'avance. Mais il n'empêche que la vie est plus que la nourriture. Votre frigidaire est bien rempli, votre congélateur aussi. Vous avez de quoi manger, merci Seigneur. Vous ne dites pas que mangerons-nous, vous maîtrisez les choses, vous êtes organisé, c'est bien. Mais Jésus dit la vie. Oui,
ton ventre est plein, mais la vie, c'est plus que la nourriture. Parce que la vie, ce n'est pas un ventre rempli. La vie, ce n'est pas seulement un toit sur notre tête. La vie, ce n'est pas seulement un travail, un CDI. La vie, c'est avoir de l'amour, être aimé, aimer, avoir des sentiments de paix. La vie, c'est se préparer à la rencontre de notre Dieu, qui nous prendra au chant du coq demain, ou qui nous prendra en plein midi, mais il nous prendra un jour. Nous ne pouvons pas y échapper. J'apprends que Madame Tortue, la tortue, certaines races de tortues peuvent vivre jusqu'à 188 ans. Pas moi. Dieu nous prendra. Et l'inquiétude vaincue, c'est de savoir que je suis dans la main de Dieu pour l'essentiel, pas seulement manger, mais vivre des choses belles, fortes, avec les autres, avec Dieu. Alors, pour nous guérir de nos inquiétudes, je ne sais pas si je vais réussir à vous guérir, pour nous guérir de cette peur de l'avenir, pour nos enfants, notre femme malade, notre travail impossible, Jésus nous demande, levez les yeux. Regardez les oiseaux. Vous l'avez lu avec moi. Regardez les oiseaux. Regardez les lys. Regardez autour de vous. Je vous disais tout à l'heure, vous m'avez entendu, que parfois le Christ, il a des paroles provocantes. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je ne sais pas où loger. Seigneur, je suis inquiet pour mon fils qui me traite comme un chien. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Seigneur, tu me demandes de regarder les oiseaux et de regarder les lys des champs ou les coquelicots, comme vous voulez. Autrement dit, je vis pour la survie, je combats pour la survie, et toi tu me dis, regardez en l'air les oiseaux. Oui, parce qu'ils ne travaillent pas pour leur survie et Dieu prend soin d'eux. Bon, vous allez dire, c'est facile à dire. On voit bien que vous n'êtes pas dans le monde de la pagaille et de la difficulté du travail. Je vous dis ce que j'ai à dire de la Bible. La création témoigne de la bonté de Dieu qui prend soin de toutes ses créatures. Face au raz-de-marée du mal, au raz-de-marée des colères, des violences, de l'ennemi, il nous dit, regardez, je prends soin de mes créatures. Parce que voyez-vous, j'arrive à la conclusion, dans l'inquiétude, nous faisons comme si la vie dépendait de nous. Ma vie. Comme si la vie dépendait de nous, alors que la vie est un don. Elle vient de plus haut que nous. Elle vient d'ailleurs. Je n'ai pas décidé de naître. Je n'ai pas créé la vie. Je l'ai reçue. Nous avons reçu la vie, et le sens de la vie, c'est recevoir. La vie, c'est un don. Quelqu'un nous l'a donné. Et quelqu'un va nous donner la résistance dans l'épreuve, dans les épreuves que vous traversez pour résister au désespoir. Votre vie n'est pas à vous. Vous en êtes que les gérants. Oui, je vois le Seigneur qui fait les corbeaux. Je le vois qui fait des fleurs dans les champs. Et je le vois, il me le dit, je ne les abandonne pas. Je réponds quand ils crient. Je leur donne une belle robe. Le Seigneur suit leur parcours. Il écoute leurs cris. Il est attentif aux murmures de toute la terre. Et pas nous. Il entend le bébé qui pleure. Il entend le mourant qui gémit dans sa chambre d'hôpital. Il entend la femme seule dans sa maison. Il entend l'enfant qui est tourmenté par la pensée du suicide. Il entend. Et le Seigneur, s'il s'occupe des corbeaux, je crois que le chef-d'œuvre de sa création, il en prend soin, c'est l'être humain. Dieu nous a créés. Il nous donne la vie. Il se donne à nous. Il nous pardonne comme un père pardonne à ses enfants qu'il aime. Un père ne peut pas renier ses enfants. Une mère ne reniera pas son enfant. Dieu ne nous reniera pas. Il donne au-delà de nos besoins quotidiens. Il donne plus que le pain, plus que l'eau. C'est pourquoi il nous dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner beaucoup plus que vous pensez. Vous voulez une miette, moi je vais vous donner un château. Rassurez-vous, il va nous donner une résurrection comme la sienne. Je ne vais pas ressusciter tout boiteux, tout bancal. Je ressusciterai plein de force comme le Seigneur lui-même est sorti de son tombeau. Il nous donne plus que nous demandons, il nous donne l'immortalité. Les tortues, hein, sont fières. Hein. Elles voient passer 4 générations d'humains et elles sont toujours là dans l'eau et sur la plage. Mais nous, nous vivrons éternellement. Quelqu'un disait, maintenant que nous sommes nés, c'est bon, nous ne mourrons jamais. Maintenant que nous sommes nés, nous ne mourrons jamais. Car j'ai l'assurance, dira l'apôtre saint Paul, que ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai pu vous parler un peu du souci à la joie? Est-ce que nous avons dépassé un peu le souci en voyant la beauté de ce qui nous attend? Il y a des soucis très bénins. Des soucis qui ne valent pas grand-chose. Il y a des soucis tragiques. Il y a des soucis angoissants. Il y a des soucis qui tuent. Mais le Seigneur nous dit ces choses pour nous dire le principal, l'essentiel, le plus important, il t'est acquis, c'est à toi. Tu es enfant de Dieu pour toujours. Oui, un jour je serai vieux, peut-être. Et un jour je serai dans un hôpital, peut-être, je ne sais pas. Un jour je sais que je mourrai. Mais je partirai vers ce qui est supérieur à tout ce qui m'a préoccupé sur terre. On a raison de se préoccuper. On ne vit pas la tête dans les nuages. Mais c'est bon d'entendre quand même qu'il y a beaucoup plus que tes préoccupations, il y a plus que tes soucis, il y a un amour qui dépasse les montagnes, plus profond que les mers, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Jésus. Que dit le Seigneur? Ma conclusion. Oui, vous avez des soucis. Parce qu'il parle à des gens qui ont des soucis. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout ce qui est droit, tout ce qui est selon le cœur de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Bien, celui qui a dit ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui promet ça, Jésus, je vous le dis, il ne peut pas se tromper. Celui qui promet ça, cherchez d'abord le royaume, c'est-à-dire le roi, le Christ, et tout le reste, vous l'aurez en temps utile, en temps voulu. Celui qui nous promet ça, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper, parce que s'il nous trompait, si Dieu nous trompait, je pèse mes mots, là, je mets ça dans la balance de Dieu, là, un jour le Seigneur va me parler sur toutes mes prédications. Et il m'a dit, il me dira, un 2 août 2015, tu as dit une parole. Oui, je vous le dis. Si Dieu nous trompait, il perdrait éternellement sa réputation. Il perdrait sa réputation. Mais un psaume dit, Dieu est renommé, réputé pour l'accomplissement de ses promesses. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il faut revenir à ça. Parce que le monde ne va pas aller mieux, mais nous, il faut traverser. Que Dieu vous aide. Je prie le Seigneur pour vous. Permettez, on va baisser nos têtes quelques instants. Que deviendrions-nous, Seigneur, sans ta présence, sans ta parole, sans ta main sur nos mains fragiles, sans ton esprit dans nos cœurs fatigués, sans ta lumière dans nos maisons parfois ténébreuses. Que deviendrions-nous, Seigneur, sans ta force dans la faiblesse de nos vies face à l'inconnu de demain. Demain, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Garde-nous confiants, garde-nous apaisés, garde-nous nos regards tournés vers toi. Nous voulons regarder les corbeaux, oui, mais nous voulons aussi regarder tous les grands qui nous ont précédés, les apôtres, et tous ceux qui ont porté bien haut dans tous les temps de la vie ce témoignage, cette parole que Dieu est amour. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu est amour. Et nous voulons croire que tu nous aimes jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'infini. Tu nous l'as dit, je t'aime d'un amour éternel. Garde-nous tous en paix, garde-nous fidèles à cet enseignement d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Restons devant le Seigneur. On est chargé, mes amis. Nous avons sur nos épaules un fardeau qu'il faudrait jeter, je ne sais pas où, au fond de la mer, dans un grand fossé, et puis ne jamais le reprendre, le fardeau de certaines inquiétudes. Il y a des inquiétudes salutaires. On doit s'inquiéter pour un enfant, pour notre santé, bien sûr, mais on s'inquiète toujours avec nos yeux sur le Christ. Mais je répète, il y a des fardeaux sur vos épaules. Et le Seigneur vous demande, confiez-vous en lui, déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Quand nous prions, nous nous déchargeons quelque chose d'invisible, passe de notre vie à sa vie. Étonnant, c'est ainsi. Je prie pour que vous vous déchargiez. Et si vous souhaitez que je prie particulièrement pour vous, vous pouvez vous lever simplement à votre place. Je vous regarderai un instant et je prierai Dieu, parce que moi je ne le vois pas, mais Dieu voit le fardeau. Dieu voit l'inquiétude. Dieu voit le souci, la peine, la tristesse inguérissable. Dieu voit tout ce que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes debout devant Dieu, vous faites signe à Dieu. Cherchez le royaume et tout vous sera donné. Je prie. Béni, je te supplie, fais du bien à ces amis qui se sont levés à leur place en signe d'accueil de ta promesse, de ta force en eux. Touche-les, prends-leur la main, rassure-les, garde leur famille, leur santé, délivre-les de leurs angoisses, de leurs chagrins, de leurs échecs. Pardonne-les, restaure-les, répare-les. Tisse en eux une vie nouvelle. Par Jésus, le Sauveur et le Seigneur, pour toujours. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pour clore cette réunion, nous chantons